Comme promis, on se retrouve aujourd'hui avec Denis Robert, qui, vous le savez, ce journaliste, a été définitivement blanchi par la Cour de cassation après 10 ans de bagarres, 60 procès, plus de 300 visites d'huissiers. Il dit, oh, à partir de 300, j'ai cessé de compter. Bref, un très très long combat. Et il a définitivement gagné avec un arrêté de la Cour de cassation dont le libellé est très intéressant. La Cour de cassation a estimé, je cite, et écoutez bien ça, que la liberté journalistique comprend, lorsqu'est en cause un débat public d'intérêt général, le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation dans le débat. On espère bien tous, enfin un certain nombre de journalistes, et puis j'espère beaucoup de citoyens, tout simplement, que cette phrase fera jurisprudence, que cette idée fera jurisprudence. Donc on retrouve aujourd'hui Denis Robert. Évidemment, ce jugement définitif qui le blanchit définitivement est une énorme claque pour Clearstream. C'est une claque aussi pour l'avocat de Clearstream, Richard Malka, qui est aussi, il faut le rappeler, l'avocat de Charlie Hebdo. C'est aussi une claque pour une petite mais très efficace nomenclatura de journalistes qui, en bande organisée, n'ont cessé de dénigrer et de dénoncer Denis Robert au cours de ces 10 années. Mais c'était pas tous les journalistes, puisque 600 journalistes à un moment l'ont soutenu en envoyant une photocopie de leur carte de presse à son comité de soutien. Et puis le SNJ, le syndicat national des journalistes, dans un communiqué, fait savoir qu'il soutient évidemment Denis Robert. La profession dit bravo à Denis Robert et merci. On mettra ce texte en ligne parce que ça fait du bien au moment où ce métier de journaliste, je le disais hier, est de plus en plus dénigré, souvent à raison, mais quelquefois quand même pour de mauvaises raisons. Il faut rappeler tout simplement qu'est-ce que ce métier. Et bien, ce métier est et doit être un contre-pouvoir. Un contre-pouvoir au sens de mettre le pouvoir politique, le pouvoir économique en cause. Interroger le pouvoir économique et le pouvoir politique sur sa légitimité, sur ce que prépare le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui ne fait pas ce qu'il dit et ne dit pas ce qu'il fait. Ben, c'est le boulot des journalistes que d'interroger ce pouvoir et de rapporter à nos compatriotes, à nos concitoyens, des informations ou des éléments aussi de réflexion. Alors, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir politique, économique et médiatique. Et il faut donc que les journalistes interrogent leur propre domaine, interrogent ce pouvoir médiatique. Et tout ça, eh ben, c'est ce qu'a fait cet homme, Denis Robert, pendant toutes ces années. Il est quand même pas le seul à faire ça, mais il a été bien seul au cours de ces années. Et on va passer cette heure, donc, avec lui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour. Pour l'Algérie, c'est maintenant ou jamais. Pour soutenir le changement en Algérie, la Coordination nationale pour le changement démocratique en Algérie organise en Algérie et en France des manifestations tous les samedis. Alors, le samedi qui vient, en France, renseignez-vous selon les villes où il se passe quelque chose. Et à Paris, ce sera Place de la République, le 19 donc, à 14h. Malheureusement, probablement, il faudra continuer encore les autres samedis. À samedi, Place de la République, à 14h, pour l'Algérie démocratique. Merci.
À tous les Nantais et plus loin, le prochain repère portera sur nos fous. Qu'en fait-on? Est-ce qu'on les soigne ou est-ce qu'on les gère? Est-ce qu'on les pense ou est-ce qu'on s'en protège? Quelle définition en donne-t-on et que disent-ils du monde où nous vivons? Les nie-t-on en les disant comme tout le monde ou les efface-t-on en les enfermant loin de nous? Il y a-t-il des alternatives? État des lieux et pistes de réflexion, ça promet d'être effarant. C'est vendredi prochain, 18 février, à 19h19, au Méliès.
Je suis complètement en colère contre l'autre fou, là, de, je sais plus quoi, de Erwan ou je sais pas quoi, mais c'est plutôt Ercon, qui trouve anormal qu'on ait refusé la liberté à l'autre excité de, qui a été condamné à perpète. Je ne pense pas que s'il a été condamné à perpète, c'est parce qu'il usait trop ses fonds de culottes dans les confessionnals des églises. C'était le foudrouillant de Action Directe. Alors, s'il était au trou, c'est sûrement pas pour avoir trop ôté soir à la messe. Si tout le monde, parce qu'il a été au trou, qu'il a fait, on doit leur accorder la liberté, c'est vrai que ça dégagera les prisons, mais quand même, c'est pas une raison. Surtout dans son cas-là. Salut!
Alors, ce jeudi 17 février, j'ai beaucoup aimé le message de Johan de Perros-Guirec, qui s'insurgeait contre le fait que, alors que la justice a accordé un régime de semi-liberté à Jean-Marc Rouillant, le parquet a bloqué cet aménagement en faisant appel, comme c'est rapporté aujourd'hui dans le journal Sud-Ouest. Et puis, il était scandalisé, Johan, et moi, j'étais tout à fait... Je partageais exactement son sentiment. Surtout que sur la même page de Sud-Ouest, on voit que le juge Trévidic, je crois, hein, qui s'occupe de l'affaire Karachi, il a dit qu'il ne contraindrait pas Jacques Chirac. Bon, il est bien élevé, le juge, quoi. Il s'est dit, d'accord, s'il veut pas, il veut pas. Alors, ce qui scandalise, évidemment, c'est deux poids, deux mesures. Comme d'habitude, c'est toujours ça qui scandalise. Pourquoi est-ce que certains peuvent échapper à la justice, et puis d'autres, ils sont constamment poursuivis, et puis on ne peut rien. C'est le même parquet qui a emmerdé Julien Coupa et tous ses amis, quoi. Je me dis, mais enfin, c'est fou. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait que, finalement, on respecte les décisions du parquet? C'est à cause de quoi les gens se contentent de dénoncer, mais acceptent la décision? C'est peut-être pour ça que le monde ne va pas bien. C'est qu'il y a des moments où il y a des décisions contre lesquelles on ne va pas. Parce qu'on mettrait en péril quoi si on allait contre ces décisions? Hein? Voilà, c'est ça, moi, la question qui me préoccupe. Mais pendant ce temps, Jean-Marc Rouillant et d'autres, et bien d'autres, restent en prison. Alors il faut faire quoi? Voilà, c'est ma question.
Salut à tous et à toutes. Le repère de Marsac-sur-Tarn se déroulera ce soir, vendredi 18 février, à la typique, 19h30. Ce sera la deuxième partie d'un sujet déjà abordé, le droit comme moyen de lutte. Les principes d'égalité sont trop souvent bafoués. Oui, vous allez me dire, dans une société de classe, ça passe inaperçu. Ouais, mais pas toujours. Nous vous invitons à rencontrer des citoyens résistants, ce soir, à la typique de Marsac-sur-Tarn, 19h30. Adieu.
Oui, bonjour là-bas, si j'y suis, c'est Jean-Claude de Montpellier. Je vous appelle parce qu'il y a un petit article qui me fait bien rigoler. Flavien, un jeune collégien de 12 ans, a été convoqué hier par le conseil du discipline pour commerce illégal de couilles de mammouth. Voilà, le jeune homme, fils de boulanger, aurait vendu des sucettes baptisées couilles de mammouth. Voilà, là, je dis bravo la jeunesse. Continuez comme ça, c'est formidable. Ça me plaît beaucoup et... Enfin des jeunes avec un peu d'imagination. Vive les couilles de mammouth.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Denis Robert. À la fin, c'est nous qu'on va gagner.
Flight number 2, arriving from...
Bon, alors il y a eu la Tunisie, il y a eu l'Égypte, et puis il y a quand même aussi Denis Robert, quoi, les trucs.
Eh oui, un tsunami chasse l'autre.
Bon, content?
Ah ouais. Bah ouais. C'était espéré, hein. Je pourrais dire c'est inespéré, mais j'espérais cette décision depuis longtemps. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle arrive, comment dire, aussi vite et aussi bien, quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'implacable dans ce jugement, quoi, et de définitif. Et donc, les juges de la Cour de cassation, après donc 10 années de procédure, après de multiples péripéties, mettent un point définitif à cette histoire et clouent le bec à tous mes détracteurs. En disant, petit 1, que mon enquête était sérieuse et argumentée, petit 2, qu'elle servait l'intérêt général. Et petit 3, il crée aussi une sorte de jurisprudence pour tous les journalistes, en nous donnant le droit de parfois d'exagérer quand les sujets sont difficiles, quand les enquêtes mènent dans des lieux de pouvoir. Enfin, donc c'est une très bonne nouvelle pour le journalisme, c'est une très mauvaise nouvelle pour Clearstream, et puis pour tous les avocats que Clearstream a eus, les avocats réels et les avocats indirects.
Ça, c'est la Cour de cassation. Ça, c'est l'arrêt de la Cour de cassation.
C'est ça.
Alors, on va reprendre un petit peu l'histoire. 10 années. Quel est votre sentiment personnel? Est-ce que c'est bon, c'est la victoire, c'est bien? Ces 10 années, ça valait le coup? Ça valait pas le coup?
Bien sûr que ça valait le coup. Bien sûr. Mais mon sentiment est pas... Je suis pas dans l'euphorie du tout. Je suis dans... Alors, c'est vrai qu'il y a une forme d'apaisement chez moi maintenant. Parce que bon, c'est arrivé enfin, quoi. J'ai plus à penser tout le temps à ça, quoi. Mais c'est assez mélangé ce que je ressens, parce que il y a la joie, il y a le, parce que je sais que j'ai été porté aussi par l'espoir de tas de gens. Et quand je dis des milliers de gens, j'exagère pas.
Vos adversaires ne peuvent plus faire appel et tout, c'est bloqué, quoi. C'est terminé.
C'est pas bloqué, c'est la justice. La justice m'a rendu justice. La justice a dit que j'avais eu raison de faire cette enquête, que cette enquête était sérieuse, etc. Et surtout, elle empêche aussi mes détracteurs de continuer à dire des bêtises et des énormités sur moi, parce que une des choses les plus pénibles, c'est quand même pendant une dizaine d'années d'avoir eu à subir les colibés, les sarcasmes, les mensonges, les calomnies. Enfin, j'ai quand même eu tout ça, quoi.
Ouais, Denis Robert, il les soutient aussi, quand même.
Mais justement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi tous ces soutiens. Mais ces soutiens, c'était pas... Alors, j'ai des amis bien placés qui m'ont soutenu. Il y a des comédiens, il y a des humoristes, il y a des gens connus. Mais d'une manière générale, c'est plutôt... Chez les journalistes, c'est plutôt les sans grades, c'est plutôt les correspondants locaux, c'est plutôt les types qui travaillent dans les rédactions. Très rarement, les rédacteurs en chef. Et puis, c'est surtout un vrai mouvement populaire, quoi. Enfin, maintenant, moi, j'ai jamais voulu trop la ramener avec ça, surtout que, comment dire, moi, je suis pas né avec l'envie d'avoir un comité de soutien, quoi. Je préfère ne pas avoir de comité de soutien. Mais à un moment donné, tous mes copains sont mobilisés, mes copains de Nancy, et on dit, bon, c'était pendant la deuxième affaire où j'avais tous ces ennuis, on dit, on peut pas te laisser comme ça, quoi. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose, parce que tu vas dans le mur avec tous ces adversaires, quoi. Et donc là, et sans faire aucun prosélytisme, ils ont vu arriver vraiment des milliers de gens qui ont commencé à écrire, à faire des dons. Il y a tout un mouvement qui s'est créé autour de moi, et c'est grâce à ce mouvement et grâce à ces gens que 10 ans après, qu'il y a cette décision de la Cour de casse. Et je savais que j'allais gagner, puisque je savais qu'à un moment donné, c'était pas possible que l'aveuglement continue, quoi.
Comment ça réagit du côté de Clearstream? Comment ça réagit du côté de vos adversaires? Vous le savez?
Pas. Clearstream, ils ont la seule chose, le seul signe. Il y a 2 signes. Il y en a un que je vais vous révéler aujourd'hui, l'autre qui était public, enfin semi-public. Ils ont fait un communiqué de 3 lignes en disant nous acceptons la décision de la Cour suprême française et nous attendons maintenant la décision de la Cour d'appel de Lyon. Et ça, c'est complètement bidon, la deuxième partie, parce que je vais vous expliquer. La Cour de cassation a pris sa décision. Elle a fait un arrêt définitif. Donc c'est définitivement jugé, sur le fond, il n'y a plus de problème, mon enquête est sérieuse, etc. Mais ils ajoutent un point, ils disent, pour estimer le préjudice que j'ai subi, la Cour d'appel de Lyon devra
statuer
et dire combien je vais avoir de dommages et intérêts, la taille et l'ampleur des encarts à passer dans les journaux. Et donc, c'est ce que doit décider la Cour d'appel de Lyon. Et chez Clearstream, ils font semblant de comprendre, enfin, ils communiquent sur le fait que la Cour d'appel de Lyon, voilà, comme les journalistes qui écoutent ça, des fois, sont paresseux, n'écoutent pas, les gens peuvent se dire, tiens, la Cour d'appel de Lyon va encore
un truc.
Donc, ils jouent sur cette espèce d'ambiguïté, quoi. Ça, c'est le premier signe, c'est se communiquer, mais j'ai découvert, très récemment, grâce à des internautes, que, vous savez, sur les forums, j'ai souvent des détracteurs et qui signent souvent d'un prénom suivi d'une ville. Et c'est une ville, c'est soit Metz, soit sa banlieue, puisque j'habite par là. Et là, par des recherches sur des adresses IP, on vient de découvrir que ces détracteurs que j'ai sur les forums, en fait, l'origine des mails venait de Clearstream. Je venais de Luxembourg. Donc, je sais pas si c'est organisé, si c'est tout ça, mais toujours est-il que, depuis la Cour de casse, quoi. Donc, on a ça sur les formes. C'est assez drôle.
J'étais assis dans le petit bureau blanc de l'inspecteur Maitran. 20 heures de garde à vue dans les dents. Le cœur en lambeaux, des abeilles au cerveau. Le gars me parlait de mon père, de ma mère et de toute la smala. J'étais Denis Robert et d'après lui, j'avais rien à faire là. Là au moins j'étais d'accord avec l'inspecteur Meltran. Rien à faire là, j'avais rien à faire là. On serait cru dans un film d'Abel Ferrara, une sorte de bad lieutenant. Il a fini de taper son PV et son œil torf m'a fixé.
C'est moche ce que t'as fait là. T'as intérêt à te mettre à table et à pas la ramener.
J'ai pensé, c'est très bien coincer les branleurs comme moi, les voleurs de poules. Mais tu fais quoi pour les vrais truands, les voleurs de foule, ceux qui vivent au casino roule, avec des gros cons, toujours foule, les potes des banquiers et des syndics de société, de Gibraltar à Vaduz, du Delaware à Singapour, jusqu'à la Banque Générale de Luxembourg.
Voleurs de poule, pilleurs de foule, juste bon à toper les voleurs de poule.
Juste bon à toper les voleurs de poule.
Voleurs de poule, pilleurs de foule, juste bon à toper les voleurs de poule.
Jamais les voleurs de foule.
Voleurs de poule, pilleurs de foule, juste pour attoper les voleurs de poule.
Toujours foule.
Voleurs de poule.
Denis Robert, vous étiez journaliste à Libération pendant une dizaine d'années, vous avez été à Libé.
Plus, presque 13 ans.
Ouais. Et comment ça a commencé cette histoire? Mais vous faisiez déjà de l'investigation à Libé?
Bien sûr, les deux dernières années, j'étais responsable des enquêtes, j'étais revenu à Paris, enfin surtout la dernière année, et puis j'ai quitté Libération en 95 pour des raisons que j'ai expliquées dans un livre qui s'appelle « Pendant les affaires continuent ». Disons que j'avais envie d'écrire et que les pages d'un journal étaient trop étroites et que je m'y sentais plus à l'aise. Et donc j'ai continué à enquêter et à beaucoup écrire sur le financement des partis politiques, les paradis fiscaux. J'ai fait l'appel de Genève avec tous ces magistrats européens.
C'était quoi, 96?
96, ouais. Et ça correspond à peu près à ma rencontre avec les Luxembourgeois, avec surtout Ernest Backus. Et Ernest va être une vraie rencontre et la première rencontre sur laquelle va se fonder toute l'enquête, quoi. Et donc avec Ernest, il va m'apprendre que l'argent a une, enfin l'argent, les valeurs mobilières, comme on dit, les mouvements financiers ont une trace, il y a une traçabilité. Avant cette rencontre avec lui, je pensais que dès qu'un mouvement financier passait une frontière, on perdait sa trace. Et d'ailleurs, ce que pensent les juges, vous savez, dès qu'il y a une enquête, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, et qu'on arrive dans un paradis fiscal, l'enquête est pliée, quoi. Et là, avec Backus, j'ai découvert qu'il y avait des endroits sur la planète qui s'appellent les chambres de compensation internationales, où il y avait c'était un lieu d'observation formidable où on pouvait tracer les flux financiers, voir d'où ils venaient, enfin, etc. Et donc c'est le début de l'enquête, quoi. Et puis Backus m'a amené à d'autres témoins comme Régis Semple, qui est l'informaticien qui m'a appris que Clearstream effaçait les traces des transactions, etc., etc. Je vais pas refaire tout le parcours, mais si vous voulez, c'est comme ça que je suis arrivé. C'est parce que j'étais connu avant et parce que des gens m'ont fait confiance. Et moi, j'ai une manière de travailler qui c'est beaucoup sur les rapports humains, les rapports de confiance, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens que je revois toujours et avec qui j'ai construit une enquête comme Clearstream. C'est d'abord 2 années de travail. Il n'y a rien de plus stupide. Une des pires choses que j'ai entendues sur mon travail, c'est que c'était... on peut tout dire de moi, de mon travail, mais on ne peut pas dire que je n'avais pas de preuves. Et le premier papier qui a été écrit par le journal du Monde, ils ont écrit un livre controversé qui accuse sans preuves. Je ne sais pas ce qu'ils avaient dans les yeux, mais c'était pire que de la merde, quoi. Parce que les preuves, non seulement j'en avais, puisqu'il y avait les listings, il y avait des documents, c'est 2 années de travail, mais en plus, tous mes témoignages j'étais filmé. Et des témoignages, il n'y en avait pas 1, 2 ou 3, il y en avait 60. Donc on peut tout dire, mais pas ça. On peut dire qu'il y a des petites erreurs, on peut dire... Mais ça, c'est pas possible. Pourquoi on a dit ça? Bon, après, c'est toute une histoire.
Alors, oui, allez-y. Non, mais ça, c'est intéressant. Qui sont ces détracteurs? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Que vous soyez critiqué, effectivement, c'est on ne peut plus normal, mais il y a quand même eu un ensemble de détracteurs qui aujourd'hui, évidemment, ont disparu complètement, sont sous le tapis, ils sont cachés derrière l'armoire. Ils sont où, les détracteurs?
Oui, ben, en tout cas,
ils s'expriment pas beaucoup.
Ils étaient quand même assez nombreux et assez puissants, parce que je leur dois quand même pas mal de mes ennuis, quoi. J'ai pas d'amertume, j'ai pas de haine et je ressasse pas, quoi. Simplement, je me suis quand même tu pendant pas mal de temps parce que j'étais très attaqué et parce que ça servait plus à rien que je parle, et, me semblait-il. Et donc aujourd'hui, je peux décrypter assez facilement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai dû subir, on va dire, 2 réseaux. Le premier réseau, c'est tout ce qui est autour d'Edoui Plenel et du journal Le Monde quand il était au Monde, qui pour des raisons... C'est à lui à s'expliquer sur ses raisons. Aujourd'hui, il se trouve qu'il a tort, archi tort, parce que la cour de casse dit bien le contraire de ce que Plenel a dit. Donc Plenel, autour de lui, il a toute une petite cour de journalistes, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Et dès le départ, ils m'ont eu dans le nez, comme on dit. Quand le monde n'aime pas un livre ou un travail, ils n'en parlent pas, c'est silence radio. Là, La semaine qui a suivi la sortie de Révélation, donc en 2001, il y a eu 5 articles dans la semaine qui a suivi pour désinguer mon travail. Ils ont monté en épingle d'une erreur, etc. Pourquoi ils ont fait ça? C'est lié à ma personnalité, c'est lié à des jalousies, c'est lié au travail que je faisais quand j'étais à Libération. Et c'est lié aussi à la paresse de ces gens-là qui ont, le dernier qui parle a raison, ils ont commencé à écrire ces bêtises et puis ça s'est propagé. Alors après, c'est à eux, faut leur poser la question, mais ce travail de sape a duré au fil des années parce qu'ils sont jamais revenus pour accepter, même après, quand le PDG Clearstream a été viré, quand il y a eu la mission d'enquête parlementaire, jamais ces gens-là ne se sont dit « bon, on s'est planté », enfin, etc. Ils ont continué, 9 ans après, Plenel continue à faire des éditos sur Mediapart ou dans des chroniques, continue à dire ces conneries sur moi, c'est comme ça, je sais pas, il m'a dans le nez, moi je le connais, j'ai dû le rencontrer 3 fois dans ma vie, je sais pas ce que Plenel a contre moi, toujours est-il qu'il a eu tort et qu'aujourd'hui c'est flagrant. Donc il y a eu tous ces gens-là, et il y a eu une deuxième équipe, on va dire, et cette deuxième équipe, ça c'est plus simple et c'est plus facilement décryptable, c'est le travail de l'avocat de Clearstream. Donc il se trouve que cet avocat est aussi l'avocat de Charlie Hebdo, il s'appelle Richard Malkar. Et que dans un premier temps, il
c'est assez contradictoire, enfin, être à la fois l'avocat de Charlie Hebdo depuis des années et être en même temps l'avocat de Clearstream. On sait très bien ce que disent les avocats dans ces cas-là, c'est que un avocat défend tout, il n'est pas défendre une cause, c'est pas forcément adhérer à la cause qu'on défend.
Moi, Malka, ça, jamais je me permettrais de lui reprocher de défendre Clearstream. C'est-à-dire, même ce grand écart-là, s'il veut le faire, il le fait. C'est son problème, sa conscience, vous avez raison, les avocats font ce qu'ils veulent, ils trouvent l'argent où ils peuvent, où ils veulent. Que Clearstream m'attaque en diffamation, c'est la loi du genre et j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais ce qui s'est passé par rapport à Malka, c'est que dans un premier temps, il a rédigé des plaintes il apparaissait pas en tout cas dans le dossier. Et que c'est moi qui ai découvert que c'était lui qui était rentré dans ce dossier. Comment il est rentré dans ce dossier, Malka? C'est parce qu'au départ, quand Clearstream a été attaqué, quand ils ont vu arriver le livre, ils ont pris un cabinet d'avocats anglais qui s'appelle Freshfields. Et Freshfields a fait une sorte d'appel d'offres. Ils sont allés voir plein d'avocats sur la place de Paris. Et ils se sont dit quel est l'avocat le meilleur en matière de diffamation, le plus retors, le plus, etc. Et donc, ils sont allés voir Charlie Hebdo, qui était un journal très attaqué. Et ils ont demandé à Malka s'il était d'accord pour faire le boulot. Donc finalement, il a accès. Et ça, je le raconte dans la boîte noire. Donc, à partir du moment où il accepte ma défense, où il accepte la défense de Clearstream, lui, son job à Malka, c'est quoi? C'est la liberté d'expression. Il fait des tas de panagériques là-dessus. Son business, c'est ça. Il défend des vingtaines, des trentaines de journalistes sur la place de Paris. Il défend des journaux. Enfin, sa grande thèse, c'est la liberté d'expression. Avec moi, il a un problème, puisque là, il est en train d'attaquer quelqu'un. Et donc, il est obligé d'inventer une rhétorique. Comment il va faire pour attaquer un type comme moi, qui, j'ai quand même, les gens me connaissent, enfin, j'écris des bouquins, je suis pas un censeur et je suis plutôt quelqu'un qui va dans le sens d'une plus grande liberté d'expression. Et c'est là où, comment dire, le jeu de Malka est non seulement contestable, mais il est à mes yeux empreint d'une très grande perversité. Et là, j'ai souffert de ça et j'ai subi ce travail-là, puisque Malka, pour pouvoir défendre Clearstream et continuer à travailler pour la liberté d'expression, il est obligé de créer un personnage qui s'appelle Denis Robert, et il est obligé de le diaboliser. Il est obligé d'expliquer que je suis un ennemi de la liberté d'expression, que je raconte n'importe quoi, que mes trucs sont des faux, que je suis un falsificateur, un conspirationniste, un idiot, un guignol, enfin, etc. Et ça serait que lui qui dirait ça. D'ailleurs, il le dit publiquement, il l'a même dit au micro de France Inter une fois, ça. Mais en plus, ce type, comme il défend pas mal de monde, il a tout un réseau. Son meilleur ami, c'est votre patron Philippe Val. C'est comme ça que je vais avoir droit à des éditos dont Charlie Hebdo, mais absolument délirant. Et d'ailleurs, Val explique qu'il a jamais ouvert mon livre, mais qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet et il l'explique très bien. Il dit, Robert, c'est le mal absolu, mais c'est presque des mots qu'il utilise. Et je vais avoir contre moi...
Ça va assez loin, puisqu'il compare votre boulot au protocole des sages de Sion. Et je ne sais pas si la Cour de cassation a bien pris conscience qu'elle protégeait et qu'elle blanchissait, protégeait, c'est pas le mot, qu'elle blanchissait quelqu'un qui est l'auteur de l'équivalent du protocole des sages de Sion, qui est en face de moi, qui s'appelle Denis Robert, quand même.
Non, mais c'est là où... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une fois qu'on a vu ça, qu'on a entendu ça, il y a même plus de mots, quoi, pour qualifier ça, quoi. Alors, le problème, c'est qu'il y aurait que Val en même temps. Bon, voilà, il y aurait que Val. Mais il n'y a pas eu que lui. Il y a tous les amis de Malka, quoi. Enfin, qui étaient peut-être finalement plus influents que ce que j'avais imaginé, quoi. Ses copines, ses copains. C'est pour ça que je me retrouve avec des éditos contre moi sur France Culture, des papiers sur Internet, où on reprend exactement les mêmes arguments que Malka utilise dans ses plaidoiries. Et quand, dans les papiers de Val, c'est la reproduction des plaidoiries de Malka. Et donc, je vais avoir avoir tout ça contre moi. Et à un moment donné, si vous voulez, même face à ça, je m'en sors. Je les gagne, mes procès. J'en perds quelques-uns, j'en gagne d'autres. Et puis là, il y a la deuxième affaire, cette histoire de corbeau, où un escroc rentre dans ma vie, enfin, on peut dire ça comme ça, et utilise mon travail. Et encore une fois, c'est moi qui... Enfin, c'est les livres, c'est tout le travail que je vais faire qui décryptera cette affaire Clearstream 2. Mais là, là, ça faisait un peu beaucoup. Et là, ces mêmes ennemis, journalistes, enfin, etc., vont, quand je serai au cœur de cette tempête-là, continuer à m'enfoncer, quoi. Et pourtant, je suis assez insubmersible puisque je m'en suis sorti, enfin, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'épreuves, quoi. Mais moi, j'ai jamais douté une seconde, quoi. Mais c'est vrai
Si, quand même, en 2008, vous jetez l'éponge. Et là, Denis Robert a pas le cuir si épais que ça.
Non.
On voit quelqu'un qui en a pris plein le museau et qui est en train de lâcher, quoi.
Non, c'est bon, vous pouvez l'interpréter comme ça. C'est vrai que ce soir-là, j'étais pas dans une grande forme, mais ma décision était réfléchie et je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Pourquoi je décide de jeter l'éponge à ce moment-là? C'est parce qu'il y a une décision du tribunal de Bordeaux qui me condamne à 12 000 euros d'amende, enfin, et de dommages et intérêts pour une interview absolument anodine que j'ai donnée au journal Sud-Ouest par un jeune journaliste. Et il y avait un détail, enfin, c'est vraiment, j'ai pas envie de revenir là-dessus, c'est tellement. Et là, je me rends compte, si vous voulez, que, à la limite, Clearstream, les huissiers, les avocats, ça va, je peux supporter. Les journalistes, leurs conneries, leurs réseaux, je peux supporter. Mais que des juges puissent se tromper à ce point, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, puisque la Cour de cassation leur a filé une grande fessée à tous ces magistrats qui se sont trompés avec cet arrêt.
Oui, oui, oui.
Et condamne un journaliste comme ça, je me suis dit, bon, ça va, quoi. Je vais pas continuer à aller répondre à des interviews, à continuer mon blog, parce que chaque fois, je répondais, moi, et ça prend un temps fou. Donc, j'ai dit, je jette l'éponge. J'ai jamais dit que j'arrêtais. J'ai dit que j'arrêtais publiquement de m'exprimer là-dessus. C'est pour ça que vous m'avez peu entendu pendant toute cette période, ou qu'aujourd'hui la décision de la Cour de cassation fait que je peux parler très librement de tout ça et j'ai aucun problème. Mais j'ai jamais, si vous voulez, j'ai jamais douté, j'ai simplement fait un pas de côté et j'ai changé de stratégie. J'étais plus dans l'affrontement, dans la réponse, et heureusement, parce que j'allais m'épuiser, j'allais perdre, et sans doute que mes adversaires, qui étaient quand même puissants, n'attendaient que ça, quoi.
Tous voleurs de foule, les manias russes et les pétroliers branlants, les tycoons fringants, les parfumeurs puants, les saoudiens chancelants. Ceux qui volent en Falcon et en Ferrari à injection, ceux qui achètent des usines comme toi des rustines et des villas offshore à Jersey, Guernsey et Bangalore, à Turk and Caicos dans les îles de la Corne d'Or. Juste bon à faire chier les voleurs de poules, jamais les voleurs de foule. Inadi répète et j'ai répété, voleurs de poules, pilleurs de foule, juste bon à toper les voleurs de poules. Ceux qui s'en mettent plein les fouilles, mais qui sont les vrais fripouilles, les gardiens du pognon, eux ne mettront jamais les pieds en zonzon. Ils nous prennent pour des pions et tous on l'aura dans le fion, à commencer par vous, les faux cons. Ça a dû l'énerver, mais il a pas osé me frapper. Il était fatigué, lessivé, sur les flancs, l'inspecteur Meltran.
Tu sortiras ton couplet aux nous instructions et tu verras ce que tu prendras comme aller de prison.
Voleurs de poules, pilleurs de foule, juste bon à toper les voleurs de poules.
Juste bon à toper les voleurs de poules.
Voleurs de poules, pilleurs de foule, juste bon à toper les voleurs de poules.
Jamais les voleurs de foule.
Voleurs de poules, pilleurs de foule, juste bon à toper les voleurs de poules.
Toujours foule.
Voleurs de poules.
Denis Robert, je voudrais qu'on parle maintenant du journalisme, parce qu'effectivement, vous avez gagné, ça fait plaisir à certains, ben, notamment les 600 journalistes quand même qui vous ont soutenu.
Qui ont envoyé leur carte.
Qui ont envoyé leur carte de presse pour vous soutenir, ce qui n'est pas rien. Il y a ceux à qui ça plaît pas du tout, qui préfèrent penser à autre chose ou parler d'autre chose. Mais est-ce que vous avez fait des petits? Est-ce que dans les écoles de journalisme, est-ce que vous servez de modèle ou au contraire de repoussoir aujourd'hui?
Non, c'est pas à moi à dire si je sers de modèle ou c'est compliqué pour moi de. Mais c'est vrai que je pourrais tous les jours aller dans les écoles ou dans des facs parler. Je suis très très sollicité et encore plus maintenant, quoi. J'ai réfléchi beaucoup à cette question de où va le journalisme, qu'est-ce qu'on fait, comment ça s'enseigne. Oui, oui, parce que on est dans une période de bouillonnement, on est dans une période où le papier est en train de mourir, mais pas l'information. Formation, bizarrement. Sur Internet, vous avez une profusion. Beaucoup de gens se posent des questions. Il n'y a pas de modèle économique, enfin, etc. Et je pense qu'en ce moment, il se passe des choses vraiment intéressantes et que, à un moment donné, un des problèmes du journalisme, c'est le problème des media workers. C'était à Cardo qui a parlé de ça il y a très longtemps, ce sociologue. Et on voit bien que ça existe vraiment, les Pakistanais de l'info, quoi. C'est-à-dire que ces jeunes types qui sortent d'école, qui sont, ou pas d'école d'ailleurs, mais qui ont tellement envie de travailler, qui ont tellement une soif d'être journaliste. Vous savez, j'étais à Lannion il y a 2 mois ou 3 mois.
Ils ont plus soif
souvent d'être journaliste que de faire du journalisme.
Peut-être aussi, parce qu'il y a un manque de curiosité et de passion. Mais, donc j'étais à Lannion à l'IUT et je discutais avec une des profs de journalisme de Lannion qui me disait que l'année dernière, il y avait 2900 candidats à Lannion, donc on est au fin fond de la Bretagne. Ouais. Mais c'est un bel IUT, ils font une formation intéressante. Ils en ont pris 28 sur 2900. Et en gros, c'est ça les statistiques. Vous allez dans les OCFJ, vous allez à Sciences Po, vous voyez la quantité de candidats, vous en avez très peu. Alors le profil du journaliste, en gros, c'est des types qui font un parcours normal, c'est Cagne, Hippocagne. Ensuite, ils font peut-être Sciences Po, ils vont dans des CFJ, ils ont 6 ou 7 ou 8 années d'études, c'est des grosses tronches, ils savent parler 3 langues, enfin, et c'est des types assez brillants, et ils se retrouvent à découper des dépêches à LCI ou dans une locale au Républicain Lorrain. J'ai rien contre LCI ou le Républicain Lorrain, mais c'est pas terrible, quoi. Et on voit bien que c'est incroyable ce qui se passe autour du journalisme en ce moment. Alors qu'on est dans un état où jamais les journalistes ont été autant décriés et par le pouvoir et par la base.
Et par l'opinion.
Et c'est vrai que là-dessus, moi, je prends le train, je rentre d'Angers, je n'arrête pas d'être félicité par des gens. Je sais que j'ai été porté par ça.
Après tout, ce que vous avez fait, c'est simplement du journalisme. C'est-à-dire que vous avez enquêté d'une manière assez simple. Voilà, on a un renseignement, puis on cherche, puis on a un autre renseignement, puis cloc-cloc, on continue, on a une information, puis ça commence à faire un peu sens, puis on continue. On se demande pourquoi vous êtes devenu une sorte de monstre, par moment, aux yeux de certains, alors que ça devrait être ça, le journalisme, c'est-à-dire un contre-pouvoir. Tout simplement, tout le monde parle du contre-pouvoir, du quatrième pouvoir, etc. C'est simplement ça, c'est d'aller interroger et mettre en cause un pouvoir, en l'occurrence le pouvoir de la finance. C'est tout simplement ça que vous avez fait.
Oui, et c'est vrai que ça répond à des éléments très basiques, quoi. C'est la curiosité, c'est le sens de l'exploration. Il faut une certaine dose de naïveté. Faut pas avoir peur de poser 5-6 fois la même question. Ça, c'est une chose que j'ai toujours faite. C'est-à-dire que quand je mets en cause quelqu'un, je vais le voir. C'est peut-être une des premières choses que je fais. C'est-à-dire que quand j'ai compris qu'il y avait des dysfonctionnements graves et importants chez Clearstream, j'ai écrit une lettre à son PDG en disant, voilà, il y a des comptes non publiés, il y a des soupçons de double comptabilité. Qu'avez-vous à répondre à ça? Il a pas voulu répondre, mais c'est ce qui prouve ma bonne foi. Et j'ai pas écrit cette lettre la veille, hein. Je l'ai écrite 6 mois avant, j'ai réitéré quelques temps après. Et ces gens-là n'ont manié que la menace et ils n'ont jamais répondu à ces questions. Donc j'ai répondu pour eux en recoupant des témoignages et j'ai fait effectivement du journalisme assez basique. C'est sans doute le journalisme le plus intéressant parce que moi, ça m'intéresse pas de refaire 50 fois le même livre. J'écris pendant les affaires continuent, je fais des enquêtes sur les affaires et à un moment donné, mon parcours m'amène à un endroit qui est sans doute un point névralgique dans la haute finance ou l'hyperfinance. Je découvre ce que personne n'avait découvert avant nous, c'est-à-dire l'existence de ces chambres de compensation internationales qui jouent un rôle absolument crucial dans les dérives et les dysfonctionnements du capitalisme. Et donc, cette affaire est planétaire. Et ça peut sembler immodeste que de le dire, mais aujourd'hui, je peux le dire tranquillement et je peux le prouver, je peux le démontrer, puisque n'oublions pas, Clearstream en janvier de cette année, ils ont annoncé des chiffres, vous savez, les valeurs enregistrées dans ces comptes. C'est 11,4 trillions d'euros. Un trillion, c'est 12 zéros.
J'ai aucune idée de ce que ça représente. Ça pourrait être 14 euros.
Non, mais d'accord, mais vous voyez, c'est 11 400 milliards d'euros. Quand vous voyez que pour la crise, la France a garanti 360 milliards d'euros, vous voyez combien de crises on peut... Enfin, les clients de Clearstream ont entreposé cet argent dans ces comptes. Donc, c'est énorme. Et c'est une boîte qui ouvre des comptes partout, dont une des révélations du livre. Ils ont quand même ouvert plus de 6000 comptes dans les paradis fiscaux. Il y a 42 paradis fiscaux qui ont des titulaires de compte chez Clearstream. Donc c'est une société qui était devenue un outil de dissimulation. Ça n'était pas que ça, mais c'était ça aussi. Donc c'est énorme.
Ce qui doit nous mobiliser dans votre travail, nous, les citoyens, les journalistes, les politiques, enfin tout le monde, c'est que Clearstream, c'est un nœud névralgique essentiel de la finance. Mais c'est incontrôlé, c'est-à-dire que personne n'a le pouvoir sur Clearstream.
Ça aussi, c'est l'enquête, dans les différentes révélations de l'enquête. Les livres vont ressortir d'ailleurs. L'excellente nouvelle de tout ça, c'est que dans quelques semaines, quelques mois, les 3 livres, donc Clearstream, l'enquête, qui est un livre qui a été interdit, plus les 2 autres, vont ressortir. Donc pendant des années, les gens ont été privés de ces livres-là. Et donc effectivement, une des révélations du livre, c'est l'absence de contrôle. Et c'est ce qui explique tout. C'est-à-dire que pourquoi une boîte comme Clearstream a son siège au Luxembourg? Parce que Luxembourg est un paradis fiscal, bancaire et judiciaire qui a protégé Clearstream. Une des incroyables réussites de ce travail, c'est qu'on a quand même réussi à provoquer un truc qui n'était jamais arrivé dans ce petit pays, c'est une ouverture d'information à Luxembourg. C'est-à-dire que le livre sort en mars, en mai, ils sont obligés d'ouvrir une information pour escroquerie, faux bilan, etc. Et le PDG et tout son staff est viré dans la foulée. Mais ça n'a ému personne ici, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que tous ces journalistes qui ont fait des papiers ou ces magistrats qui m'ont condamné n'ont jamais pris en compte cet élément élémentaire qui était de se dire, mais attendez, si ce PDG qui était en place depuis 12 ans est licencié comme une bonne, avec tout son staff, c'est bien que les livres ou les films que ces gens-là ont fait renfermaient une part de vérité, quoi. Et ça, non. C'est-à-dire que, voilà, j'ai vécu ça. C'est une histoire extraordinaire, quand même, à plein de niveaux, quoi. Elle est extraordinaire par les révélations qu'elle porte, mais elle est aussi extraordinaire par ces 10 années et par la manière dont le rouleau compresseur que j'avais en face de moi a opéré. Parce qu'on voit bien que là, tout s'est mis en place. C'est-à-dire les lobbies, cette espèce de bulldozer médiatico-politique aussi, parce que il y a certains hommes politiques qui, au début, ont compris l'importance de tout ça, qui après se sont dégonflés. Alors j'entends parler, là, dans les débats, toujours, de régulation du capitalisme, de... Vous voyez, toutes ces grandes théories, si on réfléchit 2 secondes, il n'est pas très compliqué à réguler le capitalisme. Il suffit d'aller mettre des contrôleurs chez Clearstream, chez Euroclear, chez Swift. Moi, je peux leur expliquer comment on fait. Je suis pas un puits de science, mais vous allez voir, vous prenez des informaticiens indépendants, vous les mettez là. Vous savez, les autoroutes de la finance fonctionnent comme les autoroutes. Si vous mettez des radars et des gendarmes, vous gagnez pas la lutte contre l'insécurité, mais vous ralentissez les flux. Vous pouvez beaucoup mieux contrôler ce qui se passe, etc. Si aujourd'hui on veut savoir qui en met du fric dans les paradis fiscaux, il suffit d'aller dans ces boîtes. Dans les choses très étonnantes. Moi, en 2001, dans Révélation, et en 2002, dans La Boîte Noire, je nomme toutes les banques françaises, BNP Paribas qui a des comptes à Vanuatu, Société Générale à Grand Caïman, Natexis à Jersey, enfin, etc. Je l'écris, ça. Je suis pas poursuivi. Enfin, ils me poursuivent là-dessus, je gagne mes procès, etc. Et donc, les livres sortent et il aura fallu 10 ans et une crise pour que Le Monde, L'Express, Le Point, enfin, les news magazines fassent des unes sur « Ah, les banques françaises ont des filiales dans les paradis fiscaux ». J'ai pas d'amertume, mais parfois, je suis effaré, quoi.
Juste bon à coincer les voleurs de poules, jamais les voleurs de foule. Ceux qui passent leur week-end au casino roule et pifton plein les fouilles. Ceux qui ferment les usines comme les paquets de margarine. Ceux qui planent dans l'espèce comme Yuri Gagarine. Ceux qui placent leur pognon au nez et à la barbe des braves gens, des flics et des juges d'instruction. Ceux qui pillent les nations en déplaçant leurs actions de Georgetown à London Station, de Saint-Barth à Grand Caïman. Ceux qui jouent du computer comme toi de la Sony Station. Ceux qui achètent des chaînes de télé et les présentateurs du JT, comme toi un CD ou la pub d'à côté. Ceux qui se payent des PP que t'arrives même pas à imaginer. Ceux qui t'en mettent plein la tête pour mieux se la payer. Ta tête de gros con et de payeur de cochons. Ce sont eux les gardiens du pognon et du capitalisme finissant. Les ultimes voleurs de foule, ultimes voleurs de foule. Les champions de la magouille, les proudhons de la débrouille. Les dark stars aux grosses couilles, bien armés pour coincer les voleurs de poules. Incapables d'approcher les voleurs de foule, pauvres nouilles.
Voleurs de poules, pilleurs de foule. Juste bon à stopper les voleurs de poules.
Juste bon à stopper les voleurs de poules.
Voleurs de poules, pilleurs de foule. Juste bon à stopper les voleurs de poules.
Jamais les voleurs de foule.
Voleurs de poules, pilleurs de foule. Juste bon à stopper les voleurs de poules.
Toujours foule.
Voleurs de poules.
Tony Robert, quelles sont les politiques qui vous ont suivi, qui vous ont ignoré, évité, qui aujourd'hui vous applaudissent ou continuent de baisser les yeux quand ils vous croisent?
Écoutez, applaudissent, il y en a pas beaucoup. Et puis moi, je fréquente pas beaucoup les politiques. Je suis souvent approché, j'ai été approché par des élus pour que j'entre sur ce terrain-là. Parfois, j'hésite d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, la continuité d'un travail comme le mien, c'est d'aller dans l'arène politique. C'est-à-dire que c'est pas moi qui choisis mes alliés, mais c'est effectivement c'est plus à gauche qu'à droite. Encore que la semaine dernière, François Bayrou, je l'ai croisé dans une radio, et il m'a dit c'est formidable ce que vous faites, etc. Merci, Monsieur Bayrou. Bah, garez-vous sur ces terrains-là aussi. Moi, je suis à les rencontrer, mais autrement c'est évidemment à la gauche de la gauche, c'est-à-dire que Besancenot est un des premiers, Olivier Besancenot, à en avoir parlé et intelligemment dans ses meetings. Il avait lu mes bouquins, donc il pouvait expliquer un peu tout ça. Il y avait un peu des gens de Lutte Ouvrière, il y avait des gens au Parti Socialiste. Et d'ailleurs, j'avais écrit une lettre à François Hollande à un moment donné. Il m'a jamais répondu, mais publiquement, il a hurlé avec les loups en disant que j'étais un journaliste sans méfiance qui avait entraîné dans sa chute un juge sans défense, un truc comme ça. En parlant de Van Ruymbeek, il a dit ça dans un... J'ai la mémoire de tout ça. Et quand on est dans la bagarre, comme je le suis, beaucoup plus qu'eux d'ailleurs sur des sujets essentiels, on se sent trahi, quoi, par ses mots et par ses paroles.
Denis Robert, alors justement, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez reprendre? Vous allez vous rembarquer dans des enquêtes?
Non, mais je vais...
Vivre de vos rentes?
D'abord
payé je vais... par Clearstream tous les mois?
Ah, non, mais Clearstream m'a quand même incroyablement fragilisé financièrement aussi. Ça a été long et compliqué. Il faut que je voie avec mes avocats. C'est assez nouveau pour moi. Et la situation par rapport à Clearstream est assez inédite parce que c'est très compliqué ce qui se passe en ce moment pour eux. Parce que la Cour de cassation dit, en gros... que mes livres peuvent ressortir, on peut plus m'attaquer en diffamation. Et donc, je dis quoi? Je dis qu'au cœur de l'Europe, il y a une multinationale de la finance qui est un outil de dissimulation, qui ouvre des milliers de comptes dans les paradis fiscaux. Il y a des soupçons de double comptabilité dans cette boîte. Il y a des banques mafieuses qui peuvent y avoir des comptes, etc. Mon enquête s'arrête en 2002, j'en conviens, mais ces accusations sont d'une gravité extrême. Donc, pendant 10 ans, on m'a empêché d'en parler. Aujourd'hui, non seulement je peux en parler... Je peux dire ça, vous ne serez pas attaqué. Mais en plus, n'importe qui peut citer mes livres, les reprendre, etc., etc. Donc c'est compliqué. Ça veut dire que quoi? Qu'on admet ça? Parce que jusqu'à présent, on pouvait dire, mais ce mec raconte des conneries, ses bouquins sont un tissu d'erreurs. C'est ce que les avocats de Clearstream ont colporté. Ils peuvent plus. Ils peuvent que se taire maintenant. Donc c'est incroyable. Déjà, c'est incroyable comme victoire. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? On laisse faire, on fait comme si on n'avait pas entendu, on cache Denis Robert sous le tapis, ses bouquins avec, c'est plus possible, puisque les gens en parlent, puisque les gens s'en saisissent, et que les livres vont sortir encore une fois.
La castagne continue. Mais finalement, vous êtes content, on partage votre plaisir, on est nombreux à partager ce plaisir-là, c'est un résultat encourageant, on se dit voilà, le courage est récompensé, c'est tout un tas de choses comme ça, ça fait du bien à tout le monde. Mais au fond, est-ce que... Il n'y a pas une faiblesse que de s'en remettre au juge, de s'en remettre à la justice, que ce soit la justice qui tranche. Est-ce que le débat a eu lieu? Je veux dire que là, vous nous dites, bon, voilà, il y a tel et tel journaliste qui m'ont fait des coups bas, qui m'ont critiqué, etc. Mais est-ce que le débat public a eu lieu sur votre boulot, sur votre façon de le faire, sur tout ça? La justice est là pour dire le droit, mais pas forcément le vrai, pas forcément le moral, pas forcément le politique.
Mais on est dans une société démocratique où la justice est le dernier rempart avant la sauvagerie. Donc, elle a un rôle absolument important. C'est vrai que ce débat public, moi, j'aurais aimé qu'il ait lieu.
Il n'a pas eu lieu.
Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous parce que le débat judiciaire a eu lieu, justement, dans cette instance qui est la Cour de cassation. Et donc là, il y a une grande responsabilité. Un arrêt de Cour de casse, ces types pèsent tous les arguments. C'est vraiment une balance. C'est la balance de la justice. Ils disent... Bon, ce type a écrit qu'il y avait des soupçons de double comptabilité. Est-ce que c'est diffamatoire ou pas? Quel argument il a pour dire qu'il y a un soupçon de double comptabilité? Ah, il y a ça, ça et ça. En face, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça, ça et ça. Il a raison de dire. Enfin, il a raison. Ça n'est pas diffamatoire. Et ils ont pesé comme ça sur des pages entières. C'est écrit tout petit. Les arrêts sont lisibles. Le site Rue 89 les a publiés. Et donc, j'ai gagné là 10 ou 15-0 puisque Clearstream, pas une bille là-dessus. Donc, c'est formidable, si vous voulez. La justice m'a rendu justice et a produit de la justice. Alors c'est maintenant peut-être qu'il faut qu'il y ait un débat public.
Voilà.
Et à un moment donné, un débat comme celui-là doit forcément rentrer dans la sphère publique et toucher un public beaucoup plus large. Et qu'on ne me renvoie pas l'argument selon lequel tout ça est trop compliqué. Ça n'est pas compliqué. Il suffit d'ouvrir les livres pour comprendre. C'est des livres qui sont très écrits. Moi, je passe beaucoup de temps sur mes livres. C'est ma manière à moi de pratiquer le journalisme, c'est d'essayer d'écrire, de mettre en perspective les informations, de brosser des portraits, de donner de l'humain dans tout ça. C'est pas des chiffres, c'est pas tout ça, quoi. Vous savez, on parle toujours de la douleur ou des ennuis que ça peut représenter. Une enquête comme ça, c'est génial. C'est super excitant. Ça fait un plaisir fou. Parce que, quand même, ça veut dire quoi, cette histoire? Ça veut dire que des petits mecs comme nous, je pense à Pascal Laurent avec qui j'ai fait le film, je pense à François Festor et à Tristan Mariat qui sont deux copains qui ont monté une petite boîte de prod à Saint-Avold. Comme ça, au début, on était 4 avec mon éditeur Laurent Beccaria, avec très peu d'argent. On a fait virer un état-major de multinationale. On a mis sur la place publique un débat qui, ça a mis peut-être 10 ans, mais on y est aujourd'hui. Et donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle.
C'est ça la bonne nouvelle. Comment, à très peu, bien déterminé et sacrément têtu, on peut changer beaucoup de choses. Alors demain?
Mais demain, je vais continuer à faire ce que je fais toujours. C'est-à-dire, j'écris, ce film sur le journalisme à faire.
Ouais.
Je vais continuer à faire des toiles. Actuellement, il y a un formidable spectacle qui est diffusé un peu partout, qui s'appelle L'Iceberg. J'ai fait le décor et c'est des acrobates et des chorégraphes. C'est un spectacle de Florence Caillon qui remplit les théâtres. Donc, il va être joué un petit peu partout. Allez-y. C'est vraiment un moment assez fort. Et puis, moi, je travaille sur une bande dessinée qui est adaptée de mon dernier roman qui s'appelle Dunk, qui est un roman dans l'univers de la neurobiologie, les neurosciences. C'est ce qui me passionne. Ça me passionne beaucoup plus que la finance, les neurosciences. J'ai toujours travaillé ailleurs, je prépare une bande dessinée. Dans 2 mois va sortir la bande dessinée qui s'appelle L'Affaire des Affaires, le tome 3, dessinée par Laurent Astier.
C'est multinational, Denis Robert,
non,
en
c'est
fait.
Non, je suis un mec qui bosse.
Il y en a
quoi.
12.
Je suis un mec qui bosse. À un moment donné, qu'est-ce que j'avais pour leur répondre? J'avais que ça, j'avais que les livres, les films et la bande dessinée. C'est un média formidable parce que ça permet de simplifier, d'aller à l'essentiel et de toucher le plus grand nombre.
Toucher le public, bien sûr.
C'est formidable pour ça.
Un seul mot pour conclure, c'est encourageant. Merci.
Merci.
Salut. Voilà, vous avez remarqué, c'était un entretien avec Denis Robert et puis à surveiller la réédition de ses livres Révélations avec le S en forme de dollar à la fin et la boîte noire qui était initialement publiée en 2001 et 2002 aux éditions des Arènes. Et puis tout à fait autre chose, très encourageant, un nouveau journal satirique, ça vous a peut-être pas échappé, qui se veut pluriel, créatif et fourre-tout, et qui s'appelle Zélium, et qui est arrivé le 11 février dernier dans les kiosques, et avec de très bons dessins. Et puis un autre journal, il y a des enragés du journal papier, c'est formidable, qui s'appelle Article 11, et qui est sorti mi-janvier. Voilà, il y a un site Article 11 que vous devez connaître, mais voilà, ça c'est la version papier. Et puis vous savez, on est en train de sourire et de s'encourager, etc. Mais je vais vous dire la vérité, puisque maintenant on se connaît, hein, on est très inquiet. L'équipe de la base, si j'y suis, on se regarde avec les techniciens, avec tout le monde, là on se dit comment est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Alors on regarde les dépêches, on dit, on est très très inquiet. Vous avez compris qu'on s'intéresse à notre ami Ben Ali. Ben Ali qui, selon Nicolas Beau, aurait été victime d'une attaque cérébrale. Alors on est évidemment très très inquiet, on pense à tous ces Tunisiens extrêmement malheureux qui doivent s'inquiéter, qui doivent attendre des nouvelles d'une seconde à l'autre. Et puis on a une pensée aussi pour tous les amis du président Ben Ali, les amis français du président Ben Ali, alors sans remonter à François Mitterrand évidemment, qui avait en 1989 parlé des progrès de la démocratie en Tunisie. Il y a quelqu'un qui doit être très inquiet à l'heure qu'il est, c'est Lionel Jospin, qui en 1997, accueillant à Paris Zine El Abidine Ben Ali, avait parlé de, je cite, performance de l'économie, sécurité dont jouit la Tunisie. Il avait évoqué la proximité de nos idéaux de tolérance et de solidarité qui font de nos deux pays des partenaires que tout rapproche. Jacques Chirac doit être très inquiet pour la santé de son ami Ben Ali, dont il avait dit en 2003 lors d'une visite à Tunis, le premier des droits de l'homme, c'est de manger, de se soigner, de recevoir une éducation. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance. Et c'était un moment où notre ami, l'avocate Radia Nasraoui, entamait son 55e jour de grève de la faim. Eh bien, Jacques Chirac ne s'était pas démonté. Il avait dit, je cite, « Je connais cette histoire, j'espère qu'elle trouvera une issue, mais en France aussi, nous avons des gens qui font la grève de la faim ou la feront. » Et puis, un autre qui va être très inquiet alors qu'il est, c'est Nicolas Sarkozy, qui en visite d'État en 2008 à Tunis disait que la France n'avait pas de leçons à donner en matière de droits de l'homme au président Ben Ali. Et il ajoutait ceci, notre président de la République, « Il m'arrive de penser que certains observateurs sont bien sévère avec la Tunisie qui développe sur tant de points l'ouverture et la tolérance. Qu'il y ait des progrès à faire, mon Dieu, j'en suis bien conscient pour la France et certainement aussi pour la Tunisie. » Et puis, quelqu'un qui est alors très inquiet, qui doit se manger vraiment les ongles, c'est Bertrand Delanoë, qui en mars 2010 disait « La Tunisie est un pays qui a enregistré des résultats remarquables, notamment depuis que le président Ben Ali a pu, à partir de 1987, entamer un certain nombre de réformes. » Et le maire de Paris ajoutait « La Tunisie est un pays qui porte un drapeau qui s'appelle tolérance, fraternité, ouverture aux autres. Le président Ben Ali, en 1987, a permis qu'il y ait une évolution, une transition sans rupture et sans heurts
entre les Tunisiens et eux-mêmes. Et puis, en 2008, Fadela Amara, secrétaire d'État, expliquait à propos de la Tunisie qu'il faut, je cite, « aider ceux qui forment un rempart contre l'islamisme. Je crois qu'on gagnerait à être solidaire de ce régime. » Et puis enfin, quelqu'un qui doit être très très inquiet, c'est évidemment Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, qui déclarait quelques jours avant la chute de la Maison Ben Ali, « dire que la Tunisie est une dictature univoque me semble tout à fait exagéré. » Eh bien, en nous partageant ces inquiétudes à la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Kamal Salifou, Coy Nguyen et Franck Adherer ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Slebot et Marina Touillette attend vos messages sur le répondeur de la Bassigissou au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.